Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le carême est bien commencé dans nos résolutions. Nous avons encore plusieurs semaines dans ces 40 jours et nous ne sommes pas encore à cette mi-carême qui nous permettra aussi de nous réjouir par avance dans ce dimanche de l'Étave. Réjouissez-vous, réjouis-toi Jérusalem. Aujourd'hui donc nous devons essayer de maintenir cette invitation à la pénitence, bien qu'il nous soit donné un évangile qui nous apporte une véritable lumière. Avec ce froid, vous me direz que nous avons bien besoin de ce beau soleil, mais aujourd'hui, c'est le soleil de justice, c'est notre Seigneur qui resplendit dans ce mystère, dans ce miracle de la transfiguration. Mais pour méditer ce mystère et qu'il nous apporte ses grâces pour le carême, considérons tout d'abord cette voix qui lui parle à l'occasion de cette transfiguration, la voix de son Père. Considérons que ce Fils est notre frère aîné, qu'il nous a été donné et que cette même voix avait été entendue au baptême du Christ, mais aussi au mont Sinaï, comme l'apparition de Moïse et d'Élie le signifie. Et ainsi nous pourrons dans un deuxième temps tirer de cet enseignement, de cette volonté du Père de manifester son Fils, de cette volonté du Fils de manifester son Père, nous préparer à la semaine sainte, nous préparer à cette semaine de la confiance, de l'offrande, du sacrifice pour la résurrection le matin de Pâques. Avec cette même révélation profonde d'un Fils qui nous parle de son Père lorsqu'il aura donné sa vie d'une manière mystique dans la première messe, lorsqu'il aura pris le pain, lorsqu'il aura pris le vin, et qu'il aura déjà offert son sacrifice du Vendredi Saint dans cette mystique qui est la nôtre, chaque jour et chaque dimanche, où Jésus rend présent son offrande. Mais tout d'abord, nous devons bien comprendre, depuis que nous avons cette bonne nouvelle, cet évangile, du Dieu qui s'est fait homme, de ce mystère de Noël, nous devons bien comprendre cette paternité et cette filiation en Dieu, car elle nous est transmise. Oui, il est le fils de David, il est le descendant de ce peuple hébreu, il est celui qui est le fils de la Vierge Marie, d'une fille de Sion, d'une juive pieuse qui attend le Messie, comme nombreux sont ceux qui entourent le Christ, qui l'accompagnent et parmi ses apôtres. Et voici que cette promesse de siècle en siècle du prophète Élie, et qui réveille la ferveur de ce peuple juif, qui a été sorti de l'esclavage d'Égypte par Moïse, voilà que l'accomplissement de cette promesse du Sauveur se trouve dans un homme. C'est ce petit enfant de Bethléem, mais c'est cet homme qui s'approche de Jean-Baptiste et qui est baptisé, qui demande à être plongé dans l'eau et à mourir, à se sacrifier. Jean le Baptiste refuse à l'agneau de Dieu au sein des saints ce baptême, et Jésus lui demande que toute justice soit accomplie. Et lorsque il sort des eaux, c'est la voix du Père. Dieu Tout-Puissant qui a fait peur à ce peuple quand il était au bas du mont Sinaï, dans cette tempête de feu qui était aveuglante au sommet de cette montagne, voilà que cette même voix se fait entendre pour présenter son Fils. Aujourd'hui, c'est sur le mont Tabor, une haute montagne, qu'à nouveau cette voix du Père se fait entendre. Ce n'est pas dans la modestie de ce baptême au Jourdain, c'est dans une grâce particulière pour Pierre, Jacques et Jean, pour voir la nuée que leurs ancêtres ont vue pendant 40 ans au désert, pour voir ce nuage lumineux, pour voir ce corps du Fils de l'homme que Ézéchiel a vu. Oui, nous sommes des hommes, nous avons un corps faible, nous avons un corps mortel. Encore hier, il m'a été confié une intention de prière d'une pauvre femme qui, il y a 15 ans, avait eu un cancer du sein, qui a récidivé. Et la semaine dernière, on lui apprenait que des métastases étaient dans son foie. Et elle s'est jetée par la fenêtre du service de l'hôpital où elle était. Elle s'appelle Sophie. Elle a besoin de vos prières. Elle qui avait été baptisée, qui avait été en France avec ces restes de la foi chrétienne, mais qui n'avait pas fait sa première communion, qui était une femme honnête, juste, comme on les présente de nos jours, et que j'ai connue. Avec son frère, nous sommes allés à Rome pendant une semaine. Et voilà cette faiblesse du corps humain et le corps de Jésus qui est transfiguré et qui promet la résurrection et qui promet à Pierre, à Jacques et à Jean l'accomplissement de siècles et de siècles de prophéties, de ce Moïse, de cet Élie qui sont auprès de lui. Moïse qui est mort sur le mont Nebo en voyant la terre promise. Élie qui a été emporté par des anges et qui est réservé pour la fin des temps. Mais nous pouvons prêcher sur cette fin des temps. Je peux vous rappeler Fatima comme l'année dernière. Je peux vous évoquer Notre-Dame d'Akita, sanctuaire reconnu par la Sainte Église, mais où la Vierge Marie nous annonce le châtiment divin si les péchés continuent, si nous ne nous convertissons pas. Mais cela ne peut pas nous toucher véritablement, car nous avons une vie quotidienne. Et cette vie quotidienne, elle n'est pas extraordinaire, elle n'est pas miraculeuse. Nous entendons parler de ces miracles. Vous pouvez, cet après-midi, dans ce film du Padre Pio, un film récent, bien fait, voir combien Dieu a multiplié des miracles pour ce prêtre, pour ces Italiens, pour tous ceux qui l'ont approché. Mais nous-mêmes, nous pouvons avoir une vie tout à fait ordinaire. Et dans un carême, il nous est demandé de prier, de jeûner et de faire l'aumône. Il nous est demandé de nous poser la question de notre origine, de croire que Dieu est Père et qu'il nous a envoyé son Fils. Il nous est demandé de parler avec ce Fils. Et vous pouvez apprendre, et si vous n'arrivez plus à apprendre par cœur, la prière âme du Christ pendant ce carême, pour la garder ensuite, car cette prière à Jésus nous dit tout de lui et nous donne l'espérance. Nous avons à jeûner, nous avons à maîtriser ce corps. Et ce monde, justement, n'arrive plus à le maîtriser. Il n'arrive même plus à maîtriser ses yeux. Et encore une fois, mais je ne peux pas ne pas le dire, Oui, tous ceux qui passent tant d'heures sur leur téléphone portable, sur leur smartphone, sur Internet, et parfois sous prétexte de visiter des sites très intéressants ou de donner de très nombreuses nouvelles sur Facebook ou ailleurs, mais qui n'ont pas de temps. C'est une mortification de la curiosité, c'est une mortification de notre imagination, c'est une mortification même de notre mémoire. Et puis enfin, le don, l'aumône, alors même que nous ne savons plus à qui donner, que dans cette vague de froid, nous voyons bien qu'il y a des pauvres qui ne peuvent pas trouver de lieu, ils sont vraiment dans la misère. Et puis ceux qui ont des lieux, et l'aide de l'État, et vos impôts, et tout cela se mélange pour finalement nous détourner de cette confiance en Dieu. Dans un autre passage de l'Évangile, non pas de saint Matthieu, je crois que c'est saint Jean, mais je n'en suis pas sûr, ce sont plutôt les saint Marc et saint Luc qui évoquent cette transfiguration, le Christ parle de sa passion avec Moïse et Élie. Il parle de cette souffrance du juste. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes invités à souffrir, à nous sacrifier, mais non pas de manière inutile, mais pour conquérir notre âme et l'âme des autres. Pour nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ce que nous connaissons en ce carême, comme par exemple des repas partagés, d'où cette intention que nous avons chaque dimanche de vous attirer à ces repas pour que nous sortions de nous-mêmes et que nous soyons en face d'autres personnes, que nous soyons obligés d'être polis, aimables et de sourire, et de trouver des sujets de conversation pour vivre comme nous pouvons vivre en famille, comme nous pouvons accompagner nos parents âgés, comme nous pouvons entretenir l'amour fraternel avec nos frères et nos sœurs. Tout cela, c'est Dieu qui l'a fait. Et toute vie a un prix infini, pas infini, un grand prix aux yeux de ce Dieu qui est Père et qui nous dit quelle est son intention pour nous, quelle est dans ce monde qui a peur des enfants, qui a peur de fonder une famille, que toute vie vaut la peine d'être vécue et qu'il donne sa grâce et qu'il donne sa lumière à toute âme, à tout corps pour vivre, pour donner, recevoir, pardonner, reconnaître ses torts, et pour vivre. Car Jésus dit à ses apôtres, « Vous n'en parlerez pas jusqu'à ce que je sois ressuscité d'entre les morts, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Alors demandons à la Vierge Marie, qui a vécu tous ces mystères, demandons à saint Joseph, que nous allons prier plus spécialement dans le mois de mars qui va commencer. Demandons à cet homme qui a assisté à tous ces mystères de la nativité, qui a vu cet enfant grandir et qui est mort auprès de lui. Demandons à Joseph, qui est patron de la Sainte Église, qui prie spécialement pour le pape, les évêques, les prêtres, tous les baptisés, pour qu'ils puissent être fidèles à cet appel paternel, lui qui a eu la mission d'être père pour le Fils de Dieu. Oui, soyons dans ce carême attentifs à tout ce qui nous est dit, à tout ce que nous pouvons trouver dans notre mémoire, de tout ce qui nous a été dit sur Dieu, sur ce Père, ce Fils et ce Saint-Esprit, sur la Vierge Marie, sur le chapelet, sur les litanies de Marie, les litanies de Saint Joseph. Oui, recueillons-nous, que nous puissions ciseler notre âme en ce nouveau carême, encore un de plus, me direz-vous, mais ne nous décourageons pas, car notre Seigneur nous donnera cette grâce de la persévérance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.